Je m'appelle Julien Le Breton. Et comme mon nom ne l'indique pas, je suis né et j'habite en Nouvelle-Calédonie. Là, je vous présente Leptomyrmex. Et ici, Rhytidoponera. Ce sont deux espèces de fourmis endémiques de Nouvelle-Calédonie. J'ai eu la chance de pouvoir étudier les fourmis pendant de nombreuses années. Et quelque chose qui m'a fasciné chez les fourmis, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, c'est l'auto-organisation. Chez les fourmis, il n'y a pas de chef. Et pourtant, toutes, à l'endroit où elles sont, avec les informations dont elles disposent dans leur environnement immédiat, elles agissent bien. Et du coup, le collectif avance bien aussi. Au bout de quelques années, j'ai obtenu un doctorat en écologie des communautés sur le sujet des fourmis envahissantes. Ces fourmis-là, dans les zones où elles ont été introduites, voient leur population exploser et elles ont un impact très important sur la biodiversité. Là, je vous présente la fourmi folle jeune, originaire d'Inde, et la terrible fourmi électrique, un monstre d'un millimètre et demi, mais pourtant qu'il y a une piqûre très violente qui fait que dans les zones où elle est, tout le monde part. En Nouvelle-Calédonie, les fourmis envahissantes sont considérées comme une des menaces les plus importantes envers notre biodiversité. Convaincu de devoir protéger cette biodiversité, mon premier réflexe a été de les combattre. Et j'ai été impliqué dans de vastes programmes d'éradication où, avec des hélicoptères, on allait pendre des appâts empoisonnés sur les forêts. Toutefois, en regardant bien mes données, des années d'observation, des dizaines de milliers de points récoltés à travers tout le pays, je me suis aperçu que ces fourmis ne sont présentes, elles sont véritablement envahissantes, que dans les zones perturbées ou dégradées par l'homme. Et ça, on sait bien faire. Dans les zones où on jette nos déchets, les milieux qu'on détruit pour aller prendre les ressources, des milieux qui sont brûlés avec les incendies. Ça, cette photo, je l'ai prise hier, dans ma commune à Païta, où en une seule journée, 1600 hectares de végétation ont disparu. Et le plus fou, c'est que c'est dans les milieux où on produit notre propre nourriture qu'il y a le moins de biodiversité. Une seule espèce végétale, quasiment plus d'animaux. J'ai commencé à me poser la question, est-ce que vraiment les fourmis méritent ce combat? Est-ce qu'en éradiquant les fourmis envahissantes, on allait vraiment faire quelque chose de positif pour la biodiversité de notre île? Quand j'étais petit, j'imaginais le futur comme ça, avec beaucoup de technologies. Et que toute cette technologie allait nous aider dans notre développement. Toutefois, quand on regarde la consommation des ressources, on s'aperçoit qu'on est bientôt à un pic. Les ressources vont manquer au niveau énergétique, mais aussi les autres ressources. Et en Nouvelle-Calédonie, on sait qu'il va falloir faire un choix entre l'exploitation de ces ressources ou la protection de notre environnement. De nombreux signes montrent que maintenant, notre civilisation est assez proche d'un effondrement. Ça s'est déjà vu par le passé. Et ça risque de se vérifier encore. Et ce qui risque d'arriver, ça ne va pas être Star Trek, ça risque plutôt d'être Mad Max. Et là, dans ce cas-là, bah, ça va être les plus forts qui vont aller se battre pour avoir les ressources, et j'en ferai sûrement pas partie. Donc, j'avais envie de changement. Passer à autre chose. Quelque chose de plus résilient pour la nature. Au départ, après avoir lutté contre les fourmis, j'ai lutté contre les responsables, enfin ceux que je considérais comme responsables, les grandes multinationales, les médias, certains responsables politiques. Et au cours de réunions où j'ai rencontré d'autres militants, j'en étais à moi-même, je me suis aperçu que beaucoup de ces gens qui luttaient, ils voulaient que ce soit les responsables qui leur imposent des règles pour changer eux dans leur vie. Et certains attendaient depuis 30 ans que les responsables leur imposent des règles. J'aime pas trop attendre. Donc j'ai commencé à agir par moi-même et décidé de reprendre la responsabilité de répondre à mes besoins. Et mes besoins, quels sont-ils? Sont les mêmes que la plupart des animaux. Le premier est d'avoir de l'eau et de la nourriture. Le second, un habitat qui nous convienne. Et le troisième, des relations sociales fortes. On est des animaux sociaux. Sans ces relations sociales, on s'étiolerait. Donc en famille, on a décidé d'acheter un bout de terrain en forêt et de retourner à une vie un peu plus autonome. Seulement, moi, je ne viens pas du milieu agricole. Ok, j'ai fait des études d'écologie, alors je pensais que ça allait suffire. Et quand on s'est retrouvé dans cette forêt, notre premier réflexe, il a été de couper tous les arbres, remuer la terre, on a mis des graines, on a arrosé. Première année, on a eu des super résultats. La seconde, un peu moins, et la troisième, plus rien du tout. On avait réussi à flinguer les sols. Pourtant, on était en pleine forêt. Et là, grâce à Internet, grâce notamment à tous les échanges que ceux qui testent dans le monde échangent sur YouTube, notamment avec des films, eh bien, on a découvert la permaculture, le concept de permaculture. Et le leitmotiv de la permaculture, il est de s'inspirer de la nature. Alors on s'est dit dans nos champs, dans notre monde agricole, pourquoi aussi ne pas s'inspirer de la nature ? Parce qu'effectivement, une forêt, quand on la regarde, elle n'a pas besoin d'humains pour fonctionner. Elle n'a pas besoin qu'on l'arrose, elle n'a pas besoin d'engrais, elle n'a pas besoin qu'on s'occupe de ses graines, et tout fonctionne. Et même en ville, il suffit de regarder des terrains qui sont en friche, laissés à l'abandon. En quelques mois, la végétation va revenir dessus toute seule. Alors pourquoi ne pas reprendre ces choses-là quand on fait un champ ? Et c'est surtout toutes ces images avant-après qui m'ont motivé. En quelques mois, on peut arriver à quelque chose de très productif, à petite échelle ou à bien plus grande échelle aussi. Dans la nature, à la base, ce sont les végétaux qui vont créer les premières briques de vie. Grâce à la photosynthèse, elles vont capter l'énergie lumineuse, le CO2, et commencer à créer les premières briques de vie qui vont ensuite nourrir tout le système. C'est ce que nous avons fait dans nos jardins. Tout ce qu'on appelle généralement les déchets verts, hop, ça y est, on les dépose au sol. Ça va surtout permettre de couvrir le sol. Et couvrir le sol, c'est très très important. Un sol à nu, c'est comme une maison qui n'a pas de toit. De loin, ça a l'air très bien, mais on ne peut pas y vivre. Le rayon du soleil grillerait tout dedans, et puis s'il y a de la pluie, tout serait noyé. Donc couvrir les sols est extrêmement important. En plus, le fait de couvrir va ramener beaucoup de champignons et d'autres insectes qui vont faire leur travail de décomposition et créer de l'humus, comme dans les forêts, une couche d'humus à la surface du sol. L'humus, on le voit partout dans les forêts, on ne le voit jamais dans nos champs. Le voilà le champ, le voilà le nôtre. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas de terre qui est à nu, tout est recouvert. Une grande diversité de plantes aussi. Là, je vous présente tous mes collègues de travail, du plus petit au plus grand. Et dans beaucoup de champs, même dans des champs bio, on va considérer les animaux en deux grandes catégories. D'un côté, on va avoir les auxiliaires qui vont nous aider, qu'on veut avoir là, et de l'autre côté, les nuisibles, les ravageurs, ceux qu'on ne veut jamais voir là. Mais si on regarde bien dans les forêts, ces ravageurs, ces nuisibles, en fait, ce sont les décomposeurs. C'est ceux qui vont aider à la sélection naturelle. C'est ceux qui vont enlever toutes les plantes qui sont faibles et qui vont faire en sorte que le grand cycle de la nature fonctionne tout seul. Si on les enlève, le système ne fonctionne plus. Et comme notre objectif, il est de créer de la nourriture de la manière la plus naturelle qui soit, nous utilisons tous ces animaux, en particulier les ravageurs, comme des auxiliaires à la sélection naturelle. Maintenant, ce sont eux nos plus grandes aides à sélectionner les plantes les plus adaptées à notre environnement. Une autre chose que j'ai appris pendant toutes ces années, c'est qu'avant, quand je mettais un végétal dans la terre, je pensais qu'il allait pouvoir s'en sortir tout seul, qu'il allait trouver des ressources à l'endroit où il était et puis qu'il allait pouvoir se débrouiller. Mais ce que la science moderne et l'agroécologie aussi nous montrent, c'est que l'organisme, ce n'est pas le végétal qu'on plante. Dans la nature, l'organisme, c'est la forêt en entier. Et chaque plante, ce n'est qu'un organe de tout ça. Chacune va venir servir à quelque chose. Nous, si on nous enlève le cœur, s'il n'est pas nourri, s'il n'y a pas d'eau, s'il n'y a pas de vitamines, tout seul, il ne peut pas vivre. Et c'est exactement ce qui se passe dans notre système agricole. Quand on met un arbre isolé, on est obligé de venir l'arroser, on est obligé de mettre de l'engrais, on est obligé de s'occuper de lui. Parce qu'en fait, il est déconnecté des autres. Dans les grandes forêts d'Europe, il a été montré qu'à l'époque de l'automne, quand les feuillus vont perdre toutes leurs feuilles, ils sont affaiblis à ce moment-là. Et ce sont les conifères, via les racines et les réseaux de champignons, qui vont les nourrir pour les aider à passer cette période difficile. Et au printemps, quand les feuillus reprennent vie, quand ils refont toutes leurs feuilles, ils vont aller rendre aux conifères toute la nourriture qui a été donnée au début. Et ça, c'est très très important. Voilà les champignons, justement. Le mycélium qui fait toutes les connexions entre toutes ces plantes. Et ce mycélium, il est dans la couche d'humus. D'où l'importance d'avoir cette couche d'humus. Tout se passe en surface. Souvent, on pense que ça se passe dessous, mais en fait, il y a une grande quantité de choses qui se passent en surface. Là, c'est le champ. Avec mon collègue, depuis quelques mois, on met du bois frais au sol pour justement favoriser tous ces mycéliums et l'interconnexion entre toutes les plantes. Pour rigoler, on dit qu'on bosse à plan de télécom. On installe une fibre optique entre tous nos végétaux qui vont faire que par eux-mêmes, ils vont pouvoir s'échanger de la nourriture, de l'eau et surtout de l'information. Et oui, les végétaux s'échangent des informations entre eux, notamment s'il y en a un qui est attaqué par le ravageur, hein, pour que vous compreniez. Et bien ensuite, il va transmettre l'information à tous les autres et les autres vont pouvoir se préparer. Tout ça, ça a été aussi une possibilité de redécouvrir pas mal de légumes que je ne connaissais pas en tant qu'Européen, mais qui sont présents dans tout le Pacifique depuis milliers d'années. Et toutes ces plantes-là, elles ont justement été sélectionnées par nos amis les ravageurs. Donc elles sont très adaptées à notre endroit. Parce qu'un grand problème en Calédonie, c'est que notre ventre, il est resté en Europe, souvent. C'est-à-dire qu'on mange des légumes européens et on n'est pas passé à toutes ces plantes-là. Et pourtant, ces plantes, elles ont beaucoup d'avantages. Là, je vous présente le choucanac, une forme d'hibiscus comestible. Et ce choucanac, l'OMS dit que c'est le premier légume qu'on devrait donner aux jeunes bébés. L'OMS, c'est pas rien quand même, je pense qu'on peut leur faire confiance. Comme au bout de quelques années, on commençait à produire un tout petit peu plus que ce que nous consommions, nous sommes dit, bon, ben, on va aller sur les marchés pour présenter un petit peu tous ces légumes aux consommateurs, pour avoir un échange et puis commencer à vivre un peu de tout ça. La première fois qu'on est allé sur le marché avec tous nos légumes, on est reparti avec tout. Parce que les gens, ils ne les connaissaient pas trop, ils n'avaient pas trop envie de manger ça. Donc là, ce qu'on s'est dit, ben, c'est qu'on va transformer. On a commencé à faire des farines avec les différents tarots, avec les ignames, avec les ambrevades. Et sur les marchés, voilà ce qu'on présente. À part le sel et l'huile, tout vient de notre champ. Même l'emballage, comme vous pouvez le voir, il est en feuille de bananier. Et ce qui est super avec ça, c'est qu'on a multiplié par 4, voire 8, la valeur de ces légumes. C'est-à-dire qu'on commençait à avoir un système économique qui marche. Et c'est très important. Un autre système économique, c'est la ferme permaculturelle du Bec-et-Loing, en France. Peut-être certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. L'INRA vient de montrer que sur 1000 mètres carrés, avec ce type d'agriculture, un maraîcher peut avoir un revenu qui est équivalent, voire supérieur, à ce qu'on peut avoir avec d'autres systèmes agricoles. Un autre exemple d'abondance, là c'est au Brésil, dans un endroit où il y a exactement les mêmes conditions environnementales qu'en Calédonie, au niveau du sol, au niveau du climat. Ernst Gotsch a développé, il y a 25 ans, un système qui s'appelle la syntropie. C'est de l'agroécologie aussi, mais il l'appelait la syntropie. Et dans ce système-là, on peut produire jusqu'à 60 tonnes par hectare et par an, sans aucun apport d'éléments de l'extérieur. C'est-à-dire que c'est tout le système qui va créer la nourriture pour que tout le système fonctionne. Et ça, c'est très, très important en Nouvelle-Calédonie. Les services administratifs ont fait une étude sur 10 ans, et il a été montré qu'ici, pour avoir une production stable au niveau agricole, il a fallu multiplier par 2 la dose d'engrais. C'est un signe que nos sols sont vraiment à la fin et que si on n'agit pas rapidement, on aura de gros, gros problèmes. On aura beau faire toutes les politiques agricoles pour aller à l'autonomie alimentaire, si on a besoin d'un engrais qui vient de l'extérieur, ça ne sert à rien. Donc il faut vraiment développer des systèmes qui arrivent à fonctionner en interne. Et ça, c'en est un très important. Et je vous assure qu'une fois qu'on a intégré ces quelques principes, tout le monde peut se mettre, dès demain, à la production naturelle. Une fois que le ventre est plein, on peut penser à se loger. Là encore, on a pris nos responsabilités et on a devancé un petit peu toutes les règles à l'époque et on a décidé de faire notre maison nous-mêmes avec des matériaux écologiques, recyclables pour la plupart, du bois, de la terre et de la pierre. Cette maison, elle est complètement bioclimatique, autonome en électricité, il n'y a pas besoin de climatiseur. Et pour l'allumer entièrement, on n'utilise que 200 watts seulement. C'était ce qu'on avait dans une seule pièce quand j'étais tout petit. On récupère aussi les eaux de pluie, un système de phytoépuration et des toilettes sèches. Comme ça, on intègre tout notre système dans le cycle aussi. Comme on vit dans un endroit relativement isolé, grâce aux réseaux sociaux, on peut organiser très rapidement des ateliers à lesquels on invite des gens qu'on ne connaît pas. On envoie ça sur les réseaux sociaux. Des gens répondent, viennent, et ça nous permet à la fois d'expérimenter, d'échanger. Et pour les gens qui viennent, souvent, bah, ça leur permet de mettre un pas dans le changement, parce que souvent, on n'ose pas faire ça chez soi. Par contre, chez quelqu'un, bon, on veut bien les tester quand même. Donc, c'est un super système. Ça nous permet de garder des liens, parce que je n'ai plus de travail où je pars du lundi au vendredi. Et comme je vous ai dit, si je reste tout seul dans mon coin autonome, je ne vois pas l'intérêt. Donc ce genre d'atelier est très très important. La permaculture, on peut dire que c'est du bon sens. On a mis ce mot-là, permaculture, mais sinon c'est du bon sens. Un bon sens qui est en lien avec les grands équilibres de la nature, pas avec les règles administratives. Ça peut être figuré aussi la permaculture comme une fleur, dont le premier pétale, celui du ventre, c'est l'agroécologie, que nous venons de voir. Mais ce changement, comme je vous ai dit, le leitmotiv de la permaculture, c'est s'inspirer de la nature. Il peut s'appliquer à diverses choses dans notre vie, comme l'habitat, on l'a vu aussi. Les outils et technologies. Internet a été très très important pour nous, pour récupérer de l'information utile pour pouvoir avancer. Mais la technologie, ça peut être aussi ça. Vous voyez cette feuille ? C'est un mûrier sauvage qui pousse partout. On peut remplacer tous les badges par cette feuille dès demain. C'est de la technologie aussi. Culture et éducation. En vivant tout ça, maintenant, nous sommes acteurs de la culture. Et comme on a un peu de temps, j'ai pu me mettre un peu plus à la musique aussi. Et pour l'éducation, on a repris la responsabilité d'éduquer nos enfants. Comme je travaille plus trop dans un système stressant, dire que ma santé va mieux. Et aussi, on s'est rapproché de la nature et de toutes ces plantes médicinales. Finance et économie. Souvent, on n'y pense pas quand on part dans les systèmes alternatifs, et pourtant, l'argent, c'est une forme d'énergie très, très importante. Elle est même primordiale. Si on n'en a pas assez, on ne peut pas s'extraire du système. On va être collé, il va toujours nous ramener. Il faut dépasser. C'est comme quand on fait du surf, où il faut dépasser la barre. Ben, c'est pareil, il faut gagner assez d'argent pour dépasser. Et ensuite, cet argent-là, une fois qu'on a un système un peu abondant, on repart dans la redistribution. C'est exactement ce qui se passe dans la nature avec toute l'eau ou d'autres choses. Tout se partage. Et enfin, vivre tout ça, c'est faire vivre le patrimoine. En vrai, voilà, on est dedans. Et les communautés, parce qu'on crée beaucoup de liens, à travers notamment les ateliers, nos présences sur les marchés. On crée un espèce de petit réseau à travers lequel on échange beaucoup d'informations. Un réseau où on échange beaucoup d'informations. Ça rappelle un petit peu ce que je vous ai dit par rapport aux plantes avec les champignons. Et ça, justement, c'est un réseau de champignons qui s'organisait tout seul dans une boîte. Et ça, c'est un autre réseau que vous connaissez bien. C'est Internet. Et quand on met ces deux réseaux côte à côte, on voit qu'ils sont très semblables. Ce sont les mêmes règles d'auto-organisation, comme chez les fourmis, qui vont faire tout ça et qui permettent de faire circuler de l'information utile. Quand on me demande maintenant, Julien, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? J'ai du mal à me définir, parce que souvent, on va se définir avec l'emploi qu'on occupe. Et moi, en fait, je fais tout ça. Je suis agriculteur, professeur, constructeur, électricien, citoyen actif, herboriste. Et tout ça, ça donne plus de sens à ma vie. Et c'est ce qui me permet d'être heureux maintenant. Je vous remercie.